C'est vrai que quand on regarde un peu les causes structurelles de ces différents conflits, qu'ils soient liés au terrorisme ou aux conflits locaux, on se rend compte que très souvent, les impacts négatifs des changements climatiques ont considérablement déstructuré le corps social. C'est de cette déstructuration que les groupes radicaux violents se sont investis ou se sont invités dans des endroits de l'essai. Donc, ensemble, ce sont des populations déjà fragiles par les impacts négatifs des changements climatiques qui se sont vus face à des conflits violents, qui sont le terrorisme, les conflits locaux et même des conflits liés parfois au groupe d'autodéfense.
Oui, il y a donc des déplacements des populations qui partent de leur localité vers d'autres et parfois même de certains pays vers d'autres. On parle de conflits fonciers, de tensions entre éleveurs et agriculteurs, de l'aggravation de la pauvreté qu'entraînent tous ces déplacements. Qu'en pensez-vous?
Clairement, ce sont des facteurs. C'est vrai qu'il n'y a pas qu'un seul facteur qui pourrait expliquer la situation délétère dans laquelle se trouvent les populations déplacées ou les réfugiés, mais la connexion entre les facteurs, les impacts négatifs du changement climatique, la criminalité transfrontalière, l'éviction de certaines localités par le groupe radicaux violents, l'insuffisance en termes de délivrance des services sociaux de base sont entre autres des facteurs mis en connexion pour expliquer ce déplacement massif des populations, des campagnes vers les centres urbains ou parfois des déplacements qui vont même au-delà des frontières. Donc, pour dire attention, vouloir à tout bout de soi s'accrocher sur un seul facteur, on risque de s'inscrire dans une analyse biaisée, voire très raccourcie.
Notre correspondant au Burkina Faso a réalisé un reportage qui montre que de nombreux déplacés trouvent refuge dans les familles, ce qui accentue les problèmes financiers et de survie des dites familles. Faut-il s'en inquiéter?
Et clairement, parce qu'une fois que les populations déplacées, si elles sont à l'intérieur de leur propre pays, ou les réfugiés, si ces populations sont au-delà des frontières, naturellement, ça provoque une concentration autour des ressources rares, que ce soit l'accès à l'alimentation, que ce soit l'accès à l'eau, même l'accès au logement, et tous ces aspects vont être, si vous voulez, vus, vont être surexploités à tel point qu'au-delà de ces crises sécuritaires, de ces conflits communautaires, il n'est pas du tout étonnant que le Sahel bascule vers de nouvelles conflictualités, notamment qui vont se dessiner autour de ces ressources rares, qui vont se dessiner autour de cette compétition vis-à-vis de ces ressources rares. Donc, pour dire qu'au-delà du simple fait du terrorisme, du simple fait des conflits locaux, les nouvelles conflictualités dont le Sahel doit s'attendre sont ces conflits liés à la rareté des ressources, sont ces conflits liés à la concentration de ces populations déplacées qui ont du mal à être acceptées par les populations hôtes. Ce sont cette surexploitation dont les communautés hôtes, les communautés déplacées font l'objet autour des fontaines d'eau, font l'objet autour des infrastructures de santé, font l'objet même à l'accès à l'éducation sans occulter à combien ces déplacements massifs des populations n'est pas sans inconvénient. Très souvent, les populations hôtes ont la ferme conviction qu'avec les réfugiés, avec les personnes déplacées, que la criminalité augmente. Les déplacements hôtes ont la ferme conviction qu'avec des déplacés aussi nombreux, naturellement, toutes les ressources foncières, toutes les ressources halieutiques vont se voir réduites de façon drastique. Donc, pour dire que lorsque ces déplacements venaient à se prolonger dans la durée, naturellement, il n'y a rien d'étonnant de s'attendre à de nouvelles conflictualités dont le Sahel pourrait connaître dans les années à venir.
Comment adresser cette crise de déplacés dans le Sahel et globalement, comment résoudre les problèmes structurels qui causent ces déplacements massifs des populations?
Alors, aujourd'hui, il faut aller avec des solutions contextualisées, circonstanciées, car les facteurs qui sous-tendent les déplacements massifs peuvent avoir des dénominateurs communs, mais ces facteurs sont propres aux localités, ces facteurs sont propres aux personnes déplacées, ces facteurs sont propres aux situations des réfugiés. D'où toute la pertinence aujourd'hui que les réponses soient non seulement coordonnées, mais dans le même temps que ces réponses soient sectorielles, que ces réponses soient contextualisées, tout en intégrant la dimension dynamique de la situation des personnes déplacées, tout en intégrant cette dimension dynamique la situation des populations réfugiées.
On l'imagine, des réponses à la fois sur le plan militaire, économique, de développement.
Objectivement, ce sont ces réponses, malheureusement, certes, les réponses militaires sont de plus en plus proposées par les États sahéliens. Mais lorsqu'on interroge les autres pans du développement, qui sont l'économique, qui sont les sanitaires, qui sont l'éducatif, on se rend compte que les États sahéliens sont de moins en moins présents dans ce chantier ou sur ce chantier. Or, il est extrêmement important de se dire qu'attention, les réponses militaires sont certes nécessaires, mais elles ne suffisent pas. Ces réponses militaires ne peuvent aucunement résoudre le problème lié au foncier. Les réponses militaires ne peuvent aucunement résoudre le problème lié à la distribution de la justice. Les réponses militaires ne peuvent pas du tout combler les vides laissés par l'éducation. Donc, pour dire que sans cette connexion entre les réponses, sans cette dimension holistique en termes de réponses, il va être très délicat, voire difficile pour les États sahéliens d'arriver au bout de cette nébuleuse.